Le but de la peinture impressionniste était aussi de fixer l'instant, de fixer le moment immédiat. C'était normal à une époque où la photographie venait d'émerger, qu'il y avait une concurrence avec la photographie, que le peintre avait quand même à s'interroger sur sa raison d'être, sur sa crédibilité face à la photographie qui faisait mieux, enfin, on pensait qu'elle faisait mieux que lui par rapport à l'instant. Mais en y réfléchissant, la photographie retient l'instant et c'est tout. Alors que la peinture fixe l'instant et cette distance qui va se créer entre l'instant et la mémoire, c'est-à-dire l'idée que l'on s'en fera après. Comment des images qui ont été importantes pour nous, les images de notre enfance, les images de nos bonheurs successifs, les images des rencontres, les images de l'amour, comment toutes ces images qui sont un catalogue précieux pour chacun d'entre nous, comment la peinture pouvait le fixer et en donner la dimension mémorielle. C'est une peinture qui en même temps fait percevoir la fragilité même de l'instant, ce qui quand même pourrait donner d'ailleurs l'impression que c'est une peinture angoissée, ça pourrait être l'expression d'une angoisse, pas du tout. C'est l'expression d'un bonheur, un bonheur dilaté, un bonheur qui devient un petit peu presque, pas religieux, c'est pas, mais qui devient universaliste, enfin qu'on a l'impression qu'elle se baigne dans cet instant, comme dans un moment de bonheur, et qu'en même temps elle en perçoit la fragilité.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
On peut parfaitement aimer Picasso et Rothko et Basquiat et Soulages et ressentir, comme le souligne si bien l'historien d'art Jean-Jacques Lévesque, une familiarité immédiate et infiniment réconfortante à retrouver régulièrement les toiles impressionnistes, comme de rentrer chez soi après un voyage passionnant, comme de feuilleter un soir d'automne ses albums photos pleins de visages chers, de soleil radieux, d'amour et de jeunesse enfuie. La tendresse qui s'en dégage atténue alors le pincement au cœur qui est ressenti. Les peintres impressionnistes, mais on s'en doutait déjà, font bel et bien partie de notre famille. Courez donc les admirer au merveilleux musée Jacques Marandré, boulevard Haussmann à Paris, où s'expose la collection impressionniste d'un couple de Danois, Wilhelm et Annie Hansen, qui ont acheté entre la fin du 19e et le début du 20e le meilleur de la peinture française, avant de léguer leur maison et leurs toiles à l'État. Corot, Degas, Cézanne, Sisley, Monet, Morisseau, Renoir, Gauguin, Matisse, une quarantaine de toiles rares ont fait le voyage. Et cela permet aussi de revoir la magnifique collection de Jacques Marandré dans ce lieu qui est aussi magique que la célèbre Frick Collection de New York. Bonsoir Pierre Curie.
Bonsoir.
Vous êtes le conservateur de ce musée Jacques Marandré et bien sûr on se dit qu'il y avait une évidence pour ce musée qui a été légué à l'Institut de France par ce couple de collectionneurs hors normes, les Jacques Marandré, à recevoir une collection qui vient elle aussi d'un couple de collectionneurs, alors danois, même si la démarche des deux familles est différente parce que les Jacques Marandré collectionnaient tout ce qu'ils aimaient depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne pour eux. Les Hansen, eux, c'est une sorte d'histoire d'amour avec la peinture française, au fond, qu'ils ont vécu.
Oui, ce qui est important de souligner d'abord, c'est ce parallèle. Ce sont deux collections de couples. L'idée que l'homme et la femme ensemble ont acquis des œuvres dans le même projet didactique, pédagogique, c'est vraiment le grand point commun entre ces deux collections. L'autre point commun, c'est qu'évidemment, ils sont tout à fait contemporains. Les André sont un petit peu plus vieux, si je puis dire. Ils se sont mariés en 1881, les Hansen en 1891, mais ils auraient très bien pu se rencontrer. Et c'est assez intéressant de penser que la première collection d'Édouard André avec l'école de Barbizon, des points de contact très très forts avec la collection Hansen, puisque on y retrouve les mêmes peintres, Daubigny, Arpigny, etc. C'était en quelque sorte la partie la plus moderne de la collection Jacques Marandré, correspondant à la partie la plus ancienne de la collection française des Hansen à Ordrupgaard.
Alors, les Hansen, en fait, ce sont des gens au départ qui ne sont pas d'abord des milliardaires. On pense beaucoup à des histoires d'amour, d'abord avec les peintres scandinaves, les Danois, ils en ont d'ailleurs une belle collection, mais il y a un coup de cœur, parce que c'est pas évident pour des Danois d'acheter des impressionnistes français, des peintres français, il faut s'y connaître un peu, il faut trouver les bons marchands, il faut trouver un ami qui peut servir d'intermédiaire. Puis surtout, il faut acheter, y compris pendant la Première Guerre mondiale, parce que les hostilités éclatent en 1914. Et en fait, le gros de la collection, enfin la première partie, sera constituée en 2 ans, entre 1916 et 1918. Comment ça se présente, cette histoire?
Tout d'abord, la première collection que les Hansen constituent, à partir de 1891, c'est une collection nationale. Une collection danoise, c'est un réflexe tout à fait, je dirais, naturel et assez commun à cette époque chez beaucoup de collectionneurs scandinaves. Il faut dire aussi que l'école danoise est tellement intéressante, tellement belle pour le 19e siècle qu'il y avait presque l'embarras du choix à constituer une collection exceptionnelle de peintures danoises. Donc la décision d'acheter, de constituer un fonds français est assez intéressante. Elle correspond en fait un peu à l'air du temps aussi. En Russie, c'est exactement à la même époque aussi que se constituent les grandes collections Shtouchkine, Morozov, etc. Bien sûr dans des proportions beaucoup plus importantes. En Amérique également, quelqu'un comme Barnes ou d'autres achètent de la peinture française contemporaine et les Hansen vont s'inscrire dans ce moment de l'histoire du goût qui est un moment très intéressant parce qu'il ne correspond pas à grand-chose en France. Et donc, ils achètent un peu les mêmes artistes, c'est-à-dire du pré-impressionnisme et de l'impressionnisme jusqu'aux choses les plus modernes, les tendances les plus avant-gardistes, Cézanne, Gauguin, Matisse. Matisse entre dans la collection Hansen très tôt et, bien sûr, du vivant de Matisse.
Et alors, l'un des premiers peintres que les Hansen achètent, c'est Corot. On écoute Jean Lemarie parler de ce peintre très connu ici.
Corot est un des paysagistes qui a le mieux senti la lumière différente de chaque province de France. Et dans ces paysages, il y a des paysages de nature, de campagne, paysages agrestes, rustiques, et des paysages de ville. Il a fait quantité de villes et qui a le mieux senti la lumière propre au pays et la façon dont la lumière se réfracte sur la pierre qui est de qualité différente dans chaque pays avant l'invasion du béton. Je ne sais plus quelle critique d'art a dit ce que nous transmet Corot. Ce n'est pas la nature, c'est l'amour qu'il avait pour la nature.
Pierre Curie, bien sûr, Jean Lemarie en parle très très bien. On connaît Corot surtout pour ses paysages, bien sûr. Mais ce qu'il y a d'étonnant dans cette collection Hansen, c'est qu'il y a un très beau portrait. On connaît beaucoup moins Corot faisant des portraits, un portrait de femme.
Oui, une figure d'italienne. Il en a peint un certain nombre. Vous avez par exemple la merveilleuse Marietta du musée du Petit Palais à Paris. C'est vrai que la figure l'intéresse beaucoup moins que le paysage. Néanmoins, ce qui est important dans la collection Hansen, c'est de voir comment les deux collectionneurs ont cherché à avoir un panorama assez complet de la production de Corot, qui va en fait du retour de son deuxième voyage en Italie jusqu'à sa pleine maturité, c'est-à-dire le meilleur moment en fait de la peinture de Corot, avec des figures, une scène presque symbolique qui fait penser un peu à un Diaz, enfin des jeunes femmes qui dansent dans un paysage, une scène littéraire tout à fait étonnante, Hamlet au cimetière.
C'est-à-dire c'est très surprenant, c'est très Corot. Surprenant. On n'a pas l'habitude du tout de voir Corot sous cet angle-là.
Voilà, c'est un grand paysage avec cette petite allusion au Danemark, puisque Hamlet est danois. Et puis ces très beaux paysages d'Île-de-France, notamment le pont de Mantes, qui est un petit chef-d'œuvre de sensibilité à la lumière, à l'atmosphère, au plein air. En fait.
Mais d'ailleurs, justement, le pont de Mantes, c'est un écho aux Monet qui sont très présents dans la collection Hansen. Là, on peut se demander aussi s'il y avait, en dehors de passer par des marchands très connus à l'époque à Paris et par un critique d'art qui était leur acheteur, est-ce qu'il y avait aussi un choix de la part des Hansen? Est-ce qu'ils se laissaient aller à préférer plutôt telle sorte de tableau d'un artiste plutôt que d'autres ou est-ce qu'ils faisaient confiance aux marchands?
Pour moi, il est évident qu'ils impriment leur goût très fortement dans leur collection et que leurs choix sont prépondérants. À certains moments, ils ont même acheté plusieurs grands lots, collections complètes de tableaux pour trier et garder ce qu'ils souhaitaient garder et revendre en partie ce qu'ils estimaient moins bon. Donc il y a une sélectivité dans leur collection. Et je dirais qu'un des critères de choix de la collection, c'est aussi la représentativité des œuvres par rapport à l'histoire de l'art, à cette notion de pédagogie, puisqu'il décide très vite de faire un musée ouvert au public. Dès la construction de la jolie maison d'Ordrupgaard avec sa galerie, la galerie est ouverte au public une fois par semaine, et cette idée d'acheter 12 tableaux de chaque artiste, bon, une idée un peu folle et qui n'ont pas complètement réalisé, évidemment, mais c'est l'idée de montrer un artiste dans ses différentes facettes et à son meilleur. Ses choix montrent, je dirais, l'exigence dans l'achat des œuvres. C'est exactement, quelque part, l'inverse de la collection que nous venions de montrer. La collection d'Alicia Koplowicz, qui est une collectionneuse actuelle, une collectionneuse espagnole, qui a un goût très très sûr et qui collectionne entièrement de façon subjective. Elle acquiert ce qui lui plaît, ce qui lui parle. Alors que Léa Hansen acquiert sur un discours, sur une idée pédagogique, de montrer l'évolution de la peinture française de Corot, enfin du pré-impressionnisme jusqu'à leur jour, jusqu'à la période contemporaine, avec évidemment leur goût, ils choisissent ce qu'ils aiment, mais dans un but bien précis.
Alors justement, ce pont de Mantes de Corot dont nous venions de parler, Pierre Curie, il fait écho aussi à une très belle peinture de Monet, c'est le Waterloo Bridge, puisque Monet a séjourné suffisamment longtemps à Londres pour faire toute cette série fameuse des ponts. On va écouter Marianne Alphand nous décrire très précisément ce tableau.
Ce qui est frappant dans cette histoire de Londres, c'est que ce qui l'intéressait, c'était pas les ponts en fait, c'était la lumière, si l'on peut dire, ou plutôt l'obscurcissement de la lumière à Londres, c'est-à-dire la brume. Bon, ce fameux fog londonien qui enchantait Monet et qui rendait extrêmement difficile, bien sûr, qui compliquait la visibilité, qui créait toutes sortes de perturbations de la vue, des accidents de lumière, des transformations visuelles tout à fait fascinantes. Et il va à Londres pour ça. Bon, alors, si on veut peindre la brume, bon, ben, autant mettre quelque chose dans la brume, bien sûr, pour voir comment la chose est vue, moins vue, change, etc. Bon, donc le pont. Mais le pont, au contact de la rivière, parce qu'il y avait de la brume sur la Tamise, le pont, bien sûr, est un objet privilégié qui paraît créer par lui-même un environnement de fumée. Alors, si on regarde, par exemple, cette série, ces ponts-là, qui sont les ponts de Waterloo, sont des ponts derrière lesquels on voit quelques cheminées dans la brume avec de la fumée. On voit en quelque sorte ce qui fabrique cette lumière ou cette brume ou ce brouillard que Monet cherchait. Toute la ville de Londres était baignant dans la fumée de charbon. Et certains matins, Monet se réveille, il se met à sa fenêtre et il est absolument hors de lui parce que tout est net. Alors notamment le dimanche par exemple, où les usines ne marchaient pas, où les gens peut-être se réveillaient plus tard, c'était plus net et il était complètement bouleversé et atterré.
Pierre Curie, c'est un tableau absolument exceptionnel de Monet. Et vous disiez que Léa Hansen, au départ, voulait acheter 12 tableaux de chaque. Bon, ils n'ont pas réussi, mais ils ont acheté plusieurs tableaux des artistes importants. À Jacques Marandré, en ce moment, il y a 45 toiles à peu près de cette collection.
Un petit peu moins.
Mais alors voilà. Que la collection, elle représente quoi? Plus de 150 toiles?
Plus de 150 tableaux français et un petit peu plus de 250 tableaux danois. Donc, c'est une très grosse collection, très importante. Alors je reviens sur ce pont, ce Waterloo Bridge, parce que c'est une histoire un peu amusante. Il est dans sa chambre au Savoy, un hôtel de luxe. On est en 1903, il est à l'aise. Il peint depuis sa fenêtre, et en effet il regarde Londres depuis sa fenêtre, tantôt vers l'East End, comme dans le tableau que nous montrons, et tantôt vers Westminster. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait par sa correspondance que c'est travaux de Londres, et il y a beaucoup travaillé ensuite à Giverny. Il ramène des toiles qui sont juste esquissées en France, et il y travaille pendant presque un an à cette série. Donc l'impressionnisme comme peinture de spontanéité, de l'instant, de la seconde saisie comme ça dans sa poésie et son instantanéité, elle est un petit peu à revoir à l'aune de tout ce travail que Monet produit en atelier, dans le fond comme un peintre tout à fait classique.
Et puis il y a aussi ce passage qui est très bien vu dans les peintures exposées entre le 19e siècle, un peu le passé, ces paysages, les paysans, les scènes dans la campagne, et puis l'arrivée de la modernité et des peintres comme Sisley, Pissarro, qui sont présents aussi dans l'exposition et dans la collection des Hansen, eux, ils commencent à peindre l'irruption de la modernité dans les paysages traditionnels de l'Île-de-France. On voit les premières usines sur les bords de Seine, on voit voit le déchargement des barges. Et ça aussi, pour les Hansen, c'était important de montrer le moment où cette peinture impressionniste intègre un peu la barbarie dans le paysage idyllique.
Il faut bien comprendre qu'à la fin du 19e siècle, la France est le centre artistique du monde, que les salons parisiens sont des endroits extrêmement courus, regardés de tous les artistes du monde. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Paris attire tellement d'artistes à partir de 1870 jusqu'à la guerre de 14. Or, évidemment, les impressionnistes sont en rupture avec cette tradition salonarde, je dirais, de la peinture d'histoire, de la peinture à grand sujet. Ou à sujet intéressant. Et ils vont se tourner vers une peinture banale, une peinture du quotidien, voilà, presque une absence de sujet, en effet, les berges avec une péniche, une silhouette d'usine, une silhouette de grue, toutes sortes de choses qui n'étaient jamais entrées dans la peinture avant eux. Et ça rejoint un certain goût pour la peinture de genre des Danois. Il y a, au 19e siècle, des artistes qui se sont aussi, au Danemark, intéressés à ce quotidien, cette espèce de banalité de la vie quotidienne, qui finalement était entrée dans leur peinture à eux, avant d'entrer dans la nôtre.
Ce désir mort.
Pierre Curie, la collection des Hansen, qui est à voir jusqu'en janvier au musée Jacques-Marandré, elle a eu deux vies en quelque sorte. Elle a été constituée assez rapidement, entre 1916 et 1918. Et puis en 1922, il y a eu un crack que M. Hansen a pris de plein fouet. Il était assureur, sa banque a fait faillite, il a perdu de l'argent, il a été obligé de vendre une partie de sa collection. Et puis, deux ans après, il a recommencé à acheter les mêmes peintres.
Oui, c'est une espèce parfois de... même les mêmes tableaux.
Oui, oui. Une sorte d'obstination dont on se félicite aujourd'hui. Mais c'était pas seulement pour faire genre, on est cultivé. Il y avait vraiment derrière une idée très très précise. C'était donner un beau musée au Danemark.
Oui, c'est une sorte d'acharnement. Par chance, une bonne partie de ces tableaux se retrouve aujourd'hui dans deux collections absolument prestigieuses, la collection Oscar Reinhardt en Suisse, également la Nu Carlsberg Glyptothek à Copenhague, puisque Jacobsen va acquérir un certain nombre des tableaux de Hansen en difficulté, ce qui fait que ces tableaux n'ont pas quitté le Danemark. Du reste, la Nu Carlsberg Glyptothek présente bien des points communs avec la collection Hansen. Donc en effet, à peine remis sur pied, si je puis dire, vers 1924, ses dettes sont payées. Et il recommence, il achète de nouveaux tableaux et il reconstitue ce qu'il peut reconstituer, puisque bon, certaines choses sont devenues difficiles à acquérir entre-temps.
Et oui, les prix ont monté, bien sûr, et puis il fait appel aux marchands qu'on connaît bien, nous, ici en France, puisqu'ils sont présents à ce moment-là. Parmi tous les peintres, les futurs grands peintres, il y a Bernheim, il y a Rosenberg, il y a Durand-Ruel, bien sûr.
Voilà.
Et puis, vous le disiez tout à l'heure, avec d'autres collectionneurs, les Hansen imaginent quelque chose, ils forment un consortium qui achète au moment des successions ou dans les grandes ventes, ils achètent à plusieurs la totalité et ensuite ils se la répartissent. C'est quand même une forme très moderne d'acquisition de peinture.
Absolument. Du coup, les sommes en jeu étaient énormes. C'est aussi pourquoi cette faillite a eu des conséquences si dramatiques sur la collection. C'est parce qu'en fait, le consortium manipulait des sommes très importantes d'argent et que ces dettes ont été un gouffre financier très très conséquent. Et oui, c'est une façon d'acquérir assez moderne, en effet, oui, très spécial. Et il a acquis presque jusqu'à sa mort. Enfin, bon, il est mort accidentellement en 1936, mais il réalise des acquisitions assez tard dans sa vie.
Et pourtant, j'ai lu quelque part qu'il disait qu'en 1931, sa collection était achevée.
Oui, c'est 5 ans avant sa mort, mais elle est très importante, cette collection. Je pense qu'il y a encore quelques acquisitions après cette date. Annie Hansen n'a plus acquis après le décès de son mari. Elle a vraiment considéré que c'était quelque chose de fini.
Donc, vous le disiez, Pierre Curie, il a racheté évidemment ses chères monnaies, tous les tableaux dont il avait été obligé de se séparer, les Delacroix, les Daumier, les Renoir. Et puis, il a acheté Courbet, et ça, c'était quand même un pari assez spécial, parce que Courbet, tout le monde n'aimait pas, ni l'homme, ni le peintre. On va écouter le peintre Rebérol parler de ce Courbet qu'il aime tant.
Ce naturaliste, oui. Réaliste, ça veut rien dire. Réaliste, c'est descriptif, et Courbet n'est jamais descriptif. Naturaliste, oui. Et puis, c'est surtout, pour moi, à mes yeux, le début de la peinture moderne. Enfin, moderne en France. Je pense que, grâce à Courbet, on a abandonné tout ce qui était les ors, les pompes, les chiffres, tout le bastringue. Courbet a été un peintre moderne avant tout le monde. Il est la rupture avec la Renaissance. Enfin, avec notre passé gréco-romain, qui avait assez duré quand même. Hein. Donc, il coupe avec ça, hein, et il s'en va ailleurs. Et cet ailleurs, c'est ce que nous sommes maintenant. Il avait une formule que j'aimerais bien faire mienne si j'étais un peu... Mais je suis pas assez prétentieux pour faire ça. Il disait, moi je commence là où les autres s'arrêtent.
Pierre Curie, ce Courbet, il est présent dans 3 tableaux dans cette exposition. Il y a des tableaux qui ne sont pas surprenants. Un paysage classique du Jura. Il y a de la mer déchaînée. Et puis, il y a un tableau très spécial. Alors moi, je dis, j'ai détesté. Bon, j'ai détesté, mais en même temps, c'est assez intéressant. Je suis restée plusieurs minutes devant parce que j'essayais de comprendre cette architecture étrange d'animaux. Ça s'appelle le change. C'est une vision de la chasse. C'est un tableau vraiment très étrange.
Alors, c'est vrai que c'est un tableau qui appartient à la partie commerciale de l'activité de Courbet. Ribeyrolle a raison quand il dit que c'est le premier révolutionnaire. Et c'est vrai que, en cela, les Hansen choisissent Courbet parce qu'il marque la fin de la peinture classique et le début de la peinture moderne qu'ils entendent illustrer par leur collection. Ce change, cette scène de chasse de chevreuil, il faut d'une part la relier à la vie de Courbet. Courbet est un homme absolument passionné par sa région franc-comtoise, par la nature, par la chasse. Et ses amis sont chasseurs, lui-même a chassé avec eux. Et il y a toute une clientèle pour cette peinture de chasse. C'est une peinture assez facile, finalement.
Oui, on imagine ça dans une salle à manger de bourgeois enrichis.
Voilà, absolument. Du reste, vous remarquerez que les cadres des tableaux, et notamment de celui-ci, sont tout à fait somptueux, des cadres dorés, sculptés, tout à fait magnifiques. Donc ça, je dirais que c'est la production commerciale de Courbet. C'est un très beau tableau, très bien peint, que c'est de chevreuils qui courent dans la neige. Courbet a beaucoup aimé les tableaux de neige. C'était un effet assez facile, si vous voulez, mais c'est peint au couteau avec beaucoup de générosité. Les deux autres tableaux, en effet, l'un représente une tréfilerie au bord de la Loue. C'est intéressant parce que là, quand même, c'est nature et culture. Enfin, c'est une industrie installée
à
la campagne. C'est vraiment son regard sur ce paysage très particulier, tout près d'Ornans. Et l'autre tableau, c'est la mer à Étretat. Les Hansen cherchent des tableaux significatifs. Et la série des falaises et de la mer à Étretat de Courbet, c'est la première série de peintures de paysages de l'histoire occidentale, c'est-à-dire le peintre qui reproduit, qui répète à satiété un thème, et c'est une idée que va reprendre directement Monet quelques années plus tard. Donc on voit bien comment les Hansen vont piquer des œuvres qui les intéressent dans un propos.
Et d'ailleurs, c'est pas le seul tableau un peu extraordinaire dans cette collection, enfin qui sort de l'ordinaire de l'impressionnisme, les Berthe Morisot, les Monet, Ravissant, etc. Il y a des tableaux sur lesquels on s'arrête en se disant, mais quand même, là, c'est un vrai choix original de collectionneur. Je pense notamment à un Odilon Redon, très différent des Odilon Redon. C'est une nature morte, il y a des couleurs franches. D'abord, c'est un très beau tableau, mais c'est tellement différent du style habituel de Redon qu'on le remarque tout de suite.
Vous me faites vraiment très plaisir, c'est un de mes 2-3 tableaux préférés de cette exposition. C'est un Redon qui ne ressemble pas à un Redon. Il est de 1901, c'est une nature morte tout à fait étrange, silencieuse, un peu bizarre, qui annonce les années 30. On pourrait presque y voir déjà un peu Balthus, un peu Morandi. Tant les objets semblent, je dirais, presque perdus dans cet espace sonore. Redon est habituellement, bien sûr, associé au symbolisme, à fin de siècle, une peinture littéraire un peu ennuyeuse, enfin, en tout cas pas moderne. Et là, d'un seul coup, confronté à Matisse, à Manet en face de qui il tient très bien le coup, et à Gauguin, il devient un peintre moderne. Tout à fait surprenant. Moi, j'ai pensé à Ronner, par exemple. Ces natures mortes de Ronner qui sont tellement étranges, ou parfois même celles de Dali dans les années 40. Eh bien, il y a cette atmosphère qui bascule, en fait, du symbolisme au surréalisme, dans une œuvre toute simple, sans la moindre artifice.
Et il y a aussi, dans le registre des peintures extraordinaires, un Degas de la Nouvelle-Orléans, qui lui aussi est une découverte. Alors, on reconnaît un peu la touche de Degas, ça, bien sûr, dans les personnages, mais c'est une cour de maison à la Nouvelle-Orléans qui traite le coton, manifestement, mais on ne sait pas si c'est un tableau achevé, pas achevé, et en même temps, il lui manque rien.
Oui, ben c'est tout le génie de Degas. Hein. C'est une esquisse, il l'a appelée lui-même esquisse, mais il l'a signée et présentée à des expositions. Donc là encore, attitude ultra-moderne de Degas, qui considère dans le fond que ce qu'il peut montrer au public, c'est le geste créateur, c'est l'invention d'une œuvre, et que l'œuvre n'a pas besoin d'être terminée pour être montrable et admirable. Donc c'est une scène familiale. En 1873, il rejoint une partie de sa famille à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis pour des affaires de famille, justement, et il peint là les enfants de ses cousins dans une scène très quotidienne, assez banale aussi. Le tableau le plus célèbre de cette saison en Amérique, c'est le bureau de coton du musée de Pau. Et l'on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a exactement la même palette de couleurs. Évidemment, Degas était parti avec une petite boîte, on peut imaginer, de couleurs, avec une palette relativement réduite, et avec ces quelques couleurs terre, rose, noir, il arrive à créer un univers tout à fait fascinant.
Alors Pierre Curie, il y a bien sûr beaucoup d'autres tableaux sur lesquels on pourrait s'arrêter longuement, mais il faut, avant de terminer notre conversation d'aujourd'hui, s'arrêter sur les dernières salles de cette exposition. C'est les salles des Gauguin, et ça, c'est absolument merveilleux. On a envie d'y revenir, d'y rester. Il y a un petit peu de monde, mais bon. Ce sont des Gauguin, il y en a 7, c'est ça ? 7. Parmi lesquels, un tableau aux arbres bleus. Jean-Marie Cussimberge, historien d'art, parle justement pour nous, aujourd'hui, de ces arbres bleus.
Sérusier lui dit « Je vois les arbres bleus ». Et Gauguin de répondre « Alors ?» Prenez le plus beau bleu de votre palette et mettez-le dans votre tableau. Ce qui est étonnant dans ce que l'on appelle la leçon de peinture de Gauguin, c'est que pour la première fois, on posait à un artiste la question « Comment voyez-vous ce chemin ? Comment voyez-vous ces arbres ?» Jusqu'à présent, l'enseignement académique officiel était de dire « Le chemin est fauve, il faut lui mettre des tons fauves, avec des nuances. » Et les questions qu'il a posées à Sérusier, il a en fait fait ce que l'on appelle une maïeutique, c'est-à-dire il l'a fait accoucher de son tempérament d'artiste, c'est-à-dire d'individu, d'être essentiellement personnel. Et l'on comprend que cette leçon va aboutir ou aboutira aux recherches des fauves, c'est-à-dire Vlaminck, c'est-à-dire Derain, c'est-à-dire Matisse, qui vont faire de leur toile une fête de la couleur.
Alors ce paysage de Pont-Aven peint en 1888, on le reconnaît au premier coup d'œil comme un Gauguin, bien sûr. Et puis il y a aussi ce très étonnant portrait de Vaïté, qui est une pure merveille et qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Bien sûr, il est rare ce tableau, il faudrait aller loin pour le voir.
Oui, c'est un chef-d'œuvre. J'imagine que si nous n'étions pas au même moment que l'exposition Gauguin du Grand Palais, nous aurions pu faire une affiche avec un Gauguin, mais ça aurait évidemment induit le public en erreur. Donc,
vous avez choisi un Cézanne.
Voilà, le Cézanne n'est pas mal non plus. Non, c'est une petite Vaïté de Gauguin est extrêmement émouvante. Gauguin avait un rapport tout à fait particulier avec le Danemark, puisque sa femme était danoise, ses enfants ont vécu au Danemark, et donc même un des tableaux des Hansen a été directement acheté par les collectionneurs à Mette Gade, la veuve de Gauguin. Donc cette petite Vaïté, c'est la seule commande qu'il reçoit d'un homme enrichi dans l'import-export à Tahiti. C'est pas le Goupil que l'on connaît, hein, c'est un autre Goupil. Et il peint cette petite fille merveilleusement immobile dans sa concentration, dans son intériorité, perdue dans sa rêverie, mais avec une maestria de modernité incroyable. D'abord avec ce fond rose où flottent et volent des petits motifs comme des papillons qui préfigurent Matisse 10 ou 15 ans avant Matisse. Et puis cette géométrisation du visage avec ses cernes et ses couleurs bleutées qui font immanquablement penser à la période bleue de Picasso, là encore, qui viendra 10 ans après ce tableau.
Et puis là aussi, un Gauguin, pas du tout dans sa manière, sur cet enfant qui rêve, qui dort.
Oui, sa petite fille, oui, la petite rêve, avec le papier peint qui évoque justement le rêve de la petite. C'est Aline qui est morte en 1897. Ça sera une rupture d'ailleurs définitive entre Met et lui, cet enfant mort. C'est le moment où il se détache vraiment complètement de la France, et où il part, non seulement c'est le deuxième séjour à Tahiti, mais en plus, plus loin, toujours plus loin, les Marquises.
Eh bien, c'est une exposition absolument magnifique qui s'appelle « Le jardin secret des Hansen », qui est à voir au musée Jacquemart-André jusqu'au 22 janvier prochain. Merci beaucoup, Pierre Curie, d'être
Merci
venu nous voir aujourd'hui. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dans une semaine aux environs de 19h20. J'aurai le très grand plaisir de recevoir Robert Bobert pour un film qui s'appelle « Vienne avant la nuit » qui sortira quelques jours plus tard. Et il publie en même temps un livre magnifique sur la recherche de son grand-père à Vienne avant les années noires du nazisme. Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.